Salut la mère et la fille, vous allez bien toutes les deux? Je vais mettre un petit cœur sur vos coucous. Voilà, c'est fait. Ah, déjà 4 connectés. Oui, ça va, Mélanie, je te remercie infiniment, c'est très gentil à toi. Vous avez bien fait de vous connecter ce soir, ça va être un 13e chapitre bourré d'effets spéciaux. Moi, je vous dis qu'Hollywood n'a qu'à bien se tenir avec moi. Ah, je lance le générique de mon côté dans quelques secondes. Clac, allez. Plutôt le pré-générique qui dure 1 minute 20. J'espère que Ben va passer ce soir parce que il entre en scène dans ce chapitre. J'ai eu surtout des problèmes pour lui trouver une voix parce que ce n'est pas un dessin animé, donc je ne peux pas non plus forcer le ton pour lui trouver une voix rigolote. Mais bon, on va essayer de faire au mieux, hein. Allez, cette fois-ci, je lance le générique. Bien, nous y voilà. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bon rebonjour à celles que j'ai déjà saluées virtuellement. Je pense à Valérie et sa fille Mélanie qui me font toujours le grand plaisir de se connecter de temps en temps. Et c'est ça me fait chaud au cœur en fait de se retrouver de cette façon, même si physiquement on est quelque peu éloigné. Et si la vie en fait c'est par les gens. Alors aujourd'hui c'est le lundi 20. Je regarde mes notes parce que je suis nul. Voilà, lundi 25 mai 2020, c'est le 24e Facebook Live Exilium. Et nous sommes aujourd'hui sur la lecture du chapitre 13, alors qu'il va être partagé en deux parties. Hier, on était plutôt vendredi, on était reparti au 12e siècle. Là, on retourne à l'époque présente, très présente même. Un chapitre 13 qui est divisé en deux parties, donc la première ce soir. On va un petit peu déborder, je préfère vous le dire tout de suite, donc ne comptez pas partir à 19h, enfin rien ne vous empêche bien entendu ensuite de jeter un oeil sur le live. Et demain, deuxième partie, où là aussi on va certainement un petit peu déborder, mais ce sera pas méchant, ça devrait durer peut-être 10 minutes, pas plus. Et mercredi, donc tous les chapitres seront terminés, mais il y a dans le livre quelques notes finales, ça dure 3 pages à peu près, mais qui clôturent presque le livre, parce que après j'ai une petite surprise à vous annoncer. Alors, qu'est-ce que l'on va faire tout de suite? Eh bien, le résumé de la lecture précédente, le résumé de la lecture de vendredi. Alors, je chausse les lunettes, clac, et je vous invite, comme d'habitude, à vous installer confortablement, à oublier tous vos soucis, et puis à m'écouter, quoi. Vous n'avez pas trop le choix là pour l'instant. Allez, c'est parti, on passe au résumé du chapitre précédent, et je vous retrouve tout de suite, et j'en profite pour saluer Marie-Madeleine également qui vient de se connecter. Allez, à tout à l'heure. Rien résumé de la lecture précédente. L'abbé raconte comment, dès 1150 de notre ère, un essaim de 12 moines, avec à leur tête le père abbé Robert, a lancé la construction de ce qui allait devenir l'abbaye de Noirlac. Robert, excellent gestionnaire et surtout fin stratège, réussit à mettre en confiance la noblesse charentonnaise afin de décrocher, après 10 ans de transactions et de bénédictions, la grande promesse de dons destinée à poser les fondations de l'abbaye. Le refuge pour légatis allait enfin pouvoir poser sa première pierre. Même si les légatis en fuite arrivaient sans prévenir parfois pour trouver refuge avant l'heure. Exilium, livre 1, chapitre 13, première partie. Nous sommes lundi, 7e jour. Tout mon week-end fut consacré à la recherche de documents qui auraient évoqué de près ou de loin les légatis, ces individus ordinaires que la nature avait voulu extraordinaires. Et à défaut de pouvoir accéder à la bibliothèque vaticane, Internet fut ma seule source d'information. Ce geyser de l'information, ou le plus, tutoie le moins, sans le souci des transitions. Mais point de légatis sur la toile. Du moins, dans l'acception que j'en attendais. Même les encyclopédies en ligne les plus ésotériques boudaient le propos. Pas même un blog ou une page de réseau social tenue par un légatis en mal de partager sa seconde vie. Pas un seul selfie de légatis. Oh, tout au plus, au détour de certains sites web, adeptes de la théorie du complot, des commentaires, aussi flous que les photos qu'ils agrémentaient, évoquaient la possibilité d'une invasion venue d'on ne sait où par des créatures à l'allure bestiale. Mais le fanatisme de ces torchons numériques servait à la perfection la discrétion des légatis. Je restais toujours perplexe, attristé aussi devant la discrétion absolue à laquelle l'aptitude des légatis était soumise de fait. Et comment ne pas soupirer devant des médias qui mettent en avant des individus qui ne savent rien faire ou n'ont rien à dire, quand d'autres sont contraints à taire la somme de connaissances qu'ils détiennent? Et puis, toutes ces questions qui gangrédaient mon esprit jusqu'à me faire mal au crâne. Combien de meneurs existaient-ils dans le monde? Est-ce que je les rencontrerai un jour? Et puis, est-ce qu'ils avaient une autre fonction qui ne m'aurait pas encore été révélée? Une seule chose réussissait à apaiser mes maux de crâne. Une nouvelle semaine de travail débutait. Plus un seul flocon de neige ne ponctuait le paysage. Reposée, la nature céda la place à l'hystérie sociale du lundi matin, aux grandes dames d'adolescents que le chemin vers le lycée fatiguait déjà. Cette nouvelle semaine n'avait pas le même goût que les précédentes. Il m'arrivait de frissonner au simple souvenir de ma première rencontre avec un légatis, pour finalement m'émouvoir l'instant d'après devant cet ineffable don de la liberté offert à certains privilégiés par Dame Nature. Alors, je dus déployer des efforts conscients pour intégrer tous ces sentiments contradictoires dans ma nouvelle expérience de vie, convaincu qu'ils contribuaient à ma formation sur le tas en tant que meneur. Et d'ailleurs, aussi en tant qu'humain lambda en quête de maturité. Mais le devoir m'attendait dans une réalité plus terre-à-terre et plus agitée surtout. Il faisait toujours nuit, et la clarté avait du mal à s'affirmer sous ce manteau nuageux qui s'accrochait au paysage comme un saint à son auréole. Je garais comme d'habitude mon véhicule sur le minuscule parking arrière du lycée, ravi de pouvoir choisir la meilleure place, privilège du premier arrivé. Pour la première fois, je crois, pour rejoindre mon bureau en vie scolaire, je décidai de passer par la cour qui séparait la vie scolaire du bâtiment administratif, au lieu de suivre le chemin le plus court, par le couloir. Je me souvins alors de mon ami le petit moineau, venu chercher quelques vivres pour lui et sa famille. Et aussi de cet épais tapis blanc que j'avais eu peine de cœur à maculer, tant sa lumineuse pureté fascinait par la paix et la sérénité qu'elle inspirait. Assis sous le préau attenant à la vie scolaire, des petits groupes d'élèves, éreintés par une semaine de vacances forcées, attendaient avec calme leurs camarades. Échange de regards, salutations, banalité périscolaire. Je fus rassuré, les élèves ne m'avaient pas oublié. Un autre petit groupe s'était attardé devant la fenêtre de la vie scolaire qui affichait la liste des professeurs absents pour la semaine. Oh, bien entendu, liste vide pour le moment, à leur grand désespoir. « Ouais Fred, il y a des profs absents cette semaine !»« J'en sais rien Cyril, je suis comme toi, tu vois bien que je viens d'arriver. Mais tu auras une réponse complète vendredi soir. »«
Ah ouais d'accord, hein quoi ? Bah c'est n'importe quoi !»
J'aimais bien Cyril, pas très futé, plutôt basique, parfois même carrément débile et vulgaire. Mais au moins avec lui, on ne s'ennuyait pas. Dans la cour, les réverbères éteints donnaient au lycée une aura fantastique, où chaque ténébreux mètre carré pouvait devenir complice d'un baiser volé. Plus en contrebas, malgré la pénombre qui enveloppait la petite cour, face au réfectoire, je pus entrevoir un mini nuage de lycéens, fascinés comme des papillons de nuit par le faible éclairage en provenance des cuisines. Allez hop, un tour de clé et bonjour la vie scolaire! Une pichenette machinale sur les interrupteurs pour éclairer les lieux. Ouverture de ce vieux volet roulant, toujours aussi grippé. Démarrage des ordinateurs. Sortie de veille du photocopieur. Déverrouillage de l'entrée principale. Ouverture de la salle d'études. Et le plus important, mise en route de la cafetière à capsule. Bref, le rituel pour ressusciter la vie scolaire. Avec 5 minutes d'avance sur l'horaire d'ouverture, je fus le premier à investir la pièce. Dans l'attente de mon collègue Bastien, pour affronter en tandem l'imminente déferlante de lycéens pressés de régulariser leurs absences, tandis que les appels téléphoniques viendraient casser le rythme en permanence. Or, une cadence souvent tendue à l'extrême, à laquelle, hélas, ni les professeurs ni l'administration n'assistaient. Cela aurait pourtant encouragé certains à reconsidérer la rumeur selon laquelle les AED se la coulaient douce en permanence. Je venais juste de m'installer devant mon ordinateur que la porte extérieure du couloir claqua. L'air frais qui s'infiltra me fit frissonner. Ah, voilà le deuxième! Comment ça va, Bastien? T'as pas eu de soucis pour venir en moto? Salut le Fred! Oh non, les routes sont dégagées. Oh, c'est tout juste s'il reste un peu de neige dans les fossés. Sinon, ouais, ça va, hein. Surtout pour une semaine de vacances forcées. Ah, c'est vrai, pardon, toi, tu poussais. En fait, j'ai croisé Romain tout à l'heure. Je lui ai filé mes clés, il est directement parti ouvrir la bagagerie pour les internes. Sinon, ça s'est passé comment pour toi? Moi, je m'étais préparé à cette question. Je savais aussi que ma réponse serait aussi bidon. Bastien posa son casque intégral noir brillant à terre et accrocha son parka sur notre porte-manteau bancal avant de passer aux bises rituelles et à la machine à café. Bon, la semaine s'est passée nickel, hein. Les 7 internes ont passé leur temps à regarder des films. Je me suis un peu ennuyé, mais bon, j'avais apporté ma tablette. Après, on a quand même réussi à se faire une belle frayeur avec un singe échappé d'un cirque. Il avait profité d'une fenêtre ouverte pour s'inviter dans le dortoir, le bougre. Tu parles d'une affaire? Ah bon, d'accord, hein, tu prends aussi un café Fred? Bah ouais, je veux bien là ça, merci. Bastien était réserviste, mais en tant que gendarme, il en avait tellement vu que plus aucune histoire ne l'étonnait. La mienne passa par une de ses oreilles pour ressortir par l'autre. Il ne détourna même pas son regard de la cafetière sur laquelle il avait bondi tel un rugbyman sur la ligne de touche. Ouais, la nuit, les gamins entendaient des bruits tout le temps, alors on a essayé d'organiser une chasse aux fantômes. Oh, puis finalement, ça s'est transformé en chasse aux monstres. Ah, ok. Un silence envahit la vie scolaire. Je ne sus si je devais continuer à raconter ma semaine ou laisser tomber. Puis Bastien se réveilla. Mais c'était quoi comme bestiole? Mais je te l'ai dit, un singe. On s'est retrouvé nez à nez avec un singe inoffensif, apparemment évadé d'un cirque ambulant, bloqué par la neige à Saint-Amand. Enfin, je dis, c'est plutôt elle, puisque c'était une femelle. Mais on n'empêche qu'elle a effrayé tout le monde. On ne risque rien, hein, mais bon, on ne le savait pas. Alors on s'est barré comme des fous dans la salle info. Un truc de malade. Enfin, on s'est bien marré après coup. Tiens, va ton café. Je t'ai mis des deux sucres. À mon tour. Merci, monsieur. C'est quand même bizarre ton truc, hein. J'ai pas entendu parler d'un cirque, hein, qui serait passé à Saint-Amand. Enfin bon. Bah, le singe, il est parti comment, alors, finalement? Bah, elle est partie par où elle est venue, par la fenêtre. Sinon, à part ça, il a beaucoup neigé par chez toi? Ouais, bah, comme en ville, hein, impossible de sortir, moi, je devenais fou, je supporte pas de rester chez moi à rien faire. La porte du couloir claquait à nouveau. Ça y est, les gamins qui commencent à se pointer. Et c'est parti pour le rush. Bastien s'installa avec son mug de café derrière le comptoir d'accueil de la vie scolaire, prêt à dégainer son stylo. Assis derrière mon bureau, j'actualisais mon tampon dateur pendant que Bastien consultait ses ultimes messages sur son téléphone. Puis le premier client apparut. Salut Fred, salut Bastien. L'élève qui se présenta, je ne le regardais déjà plus comme celui que j'avais jadis connu. Tiens, déjà là, Lewis. Alors on ne se quitte plus. Mais il était au lycée cette semaine. Bah je pense bien, Bastien, il habite en face. Il était là tous les matins pour voir ses potes, Guilhem et Kevin. Tous les trois, ils forment un trio de choc, mon grand. Hein, Lewis? En fait, ils sont pas arrivés? Non, ils seront en retard tous les deux. Ils seront là vers 10h, d'après ce qu'ils m'ont dit. Le lycéen expliqua avec un large sourire la raison de sa rentrée si matinale. Sandra m'a dit qu'elle viendrait plus tôt avec son père. Ça fait plus d'une semaine qu'on ne s'est pas vu. On a plein de choses à se dire. Puis dehors, on ne voit rien, c'est pas éclairé. Alors, j'ai préféré venir te dire un petit bonjour et puis aussi te dire merci pour tout ce que tu as fait cette semaine. Je ménageais mon sourire, puis fixais Lewis pour lui rappeler l'attention plus qu'ordinaire que je lui portais. Bastien écoutait. Alors, je dus choisir mes mots. Non, c'est sympa d'être passé nous voir, Lewis. Oui, j'imagine que tu as beaucoup à lui raconter à ta Sandra après cette semaine du blanc. Et rappelle-toi que ta copine apprendra à te connaître avec le temps. Puis il faut bien conserver quelques secrets, non? Ouais. Lewis sourit. Mais Bastien crut utile d'alimenter la conversation. Bon, de toute façon, les filles, elles devinent toujours tout, même sans que tu leur dises quoi que ce soit. Tiens, rien qu'en leur parlant, elles devinent des trucs, c'est délirant. Elles ont un sixième sens, moi je te dis. J'ai jamais réussi à mentir à une fille, et pourtant j'en fais des efforts, hein. Alors quand j'en invite une au resto, je m'en fous, et je réponds aux messages des autres filles en même temps. Au moins, elle sait à quoi s'en tenir. Lewis gloussa. Mais tu vois, Lewis, tu as ici l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Eh, Bastien, au resto, tu demandes aussi à tes conquêtes de payer leur part? Ouais, et aussi une participation aux frais d'essence si c'est moi qui promène. Bastien adorait délirer, et force était de constater que la météo n'avait pas gelé son inspiration. Mais Lewis fut un petit peu plus sérieux. Ben oui, mais il y a aussi des choses impossibles à deviner, hein, même par des filles. T'es pas d'accord, Fred? J'attendis quelques sages secondes avant d'apporter une réponse qui, je le savais, serait désormais perçue par Lewis comme une feuille de route. Eh oui, des choses indétectables. Ta richesse t'appartient, Lewis. Ne dilapide pas tout ça pour une simple histoire de cœur qui vient à peine de démarrer. Allez, Phil, ne fais pas attendre Sandra, on se revoit plus tard. Lewis me fixa, après s'être assuré que son regard ne fut plus dans le champ de vision de Bastien, dont les deux mains, toujours engourdies par le froid, enlaçaient sa tasse tiède. Puis, la surface de ses yeux devint aussi brillante qu'une surface vitrifiée, et le bleu caraïbe de ses pupilles disparut, pour laisser place à un blanc pur, à peine rougi par quelques microveines. Ses yeux reprirent leur aspect initial une fraction de seconde plus tard. Un flash auquel il faudrait désormais que je m'habitue dans ses multiples déclinaisons. Alors j'interprétais celui-ci comme un simple « Salut Fred, on se revoit plus tard ». C'est par un fade clin d'œil que je répondis au signe de départ de Lewis. Le lycéen parti, nous reprîmes nos habitudes du matin. Pendant que Bastien organisait son bureau et consultait le cahier de liaison pour s'enquérir des tâches programmées, je consultais les courriels. Quelques minutes de silence, durant lesquelles chacun savait ce qu'il avait à faire. Puis le pragmatisme reprit ses droits. Bastien, t'es pas encore réchauffé avec ton café? Bah non, j'aurais dû finalement venir en voiture ce matin, mais c'est bon, hein, j'ai connu pire. Je suis pas non plus une femmelette, hein. Et puis quand les gamins vont tous débarquer, bah... Un hurlement strident. Bastien ne termina pas sa phrase et posa la question pour nous deux. Mais qui est-ce qui braille comme ça? Nous nous précipitâmes à l'extérieur. Malgré certaines parties éclairées des bâtiments, l'essentiel de la surface de récréation restait plongé dans une profonde obscurité d'où les silhouettes peinaient à se dégager. Un second hurlement. À peine plus violent que le premier, mais cette fois-ci, nous étions dehors et pûmes en mesurer la pleine intensité. Oh, très aigu, il ne pouvait avoir été émis que par une demoiselle. Fred, c'est en bas, à côté du ref. Reste en visco, je pense voir ce qui se passe, ça va me réchauffer. Ouais, ok, prends ton téléphone. L'infirmière doit pas être arrivée. Passe-moi un coup de fil s'il faut qu'on appelle les secours et les parents. C'est peut-être quelqu'un qui a glissé sur une flaque ou j'en sais rien. Il n'attendit pas la fin de ma phrase. Bastien connaissait son boulot. Mes rappels étaient totalement superflus. Les petits groupes d'élèves déjà formés sous le premier préau se dissocièrent pour se recomposer dans la première cour, près des lumières de la vie scolaire, les regards pointés en direction du réfectoire. Resté à l'extérieur de la vie scolaire, je conservais un œil sur cette vie scolaire tout en surveillant l'endroit où Bastien avait disparu. En face, le bâtiment administratif n'avait pas encore ouvert ses portes, même si je devinais le proviseur actif dans son bureau.
Fred, qu'est-ce qui se passe ?
Demanda une des élèves du groupe le plus proche après s'être rapprochée de moi. Ah, je n'en sais rien. Une fille a crié, vous avez tous entendu comme moi. Bastien est parti voir. On va le savoir dans pas longtemps. Bon, c'est peut-être pas bien grave, faut pas s'inquiéter tout de suite. Le préau finit par se vider. De plus en plus de lycéens se rassemblèrent dans la première cour. Un brouhaha s'installa, chacun allant de ses commentaires. Les plus hystériques plaquaient leurs poings serrés sur leurs lèvres, quand les plus amusés étaient prêts à prendre la bonne photo au bon moment avec leur smartphone.
« Putain, mais on voit rien avec ce noir! Mon flash, il va servir à rien! Quand ils veulent, hein, ils les allument, leurs réverbères de merde !»«
Dis, Cyril, je t'entends d'ici, il y a mes tympans qui sont à deux doigts de faire un malaise, là. Alors tu surveilles ton langage quand je suis à proximité, ok ?»«
Oh, pardon, Fred, je t'avais pas vu !»
Ouais, bah même quand tu me vois pas, habitue-toi à bien parler, ta copine appréciera.
Bah, j'ai pas de copine, hein.
Bah c'est parce que tu parles mal.
Et pourquoi y a pas de lumière?
Les réverbères sont en service depuis la tempête. T'as une autre question?
Bah non, ça va.
Bastien n'appelait pas. Aucun élève ne débarquait en vie scolaire, tout s'est occupé dehors, à suivre, de loin, le cours des événements. Puis le sauveur réapparut. Tout le monde était pendu aux lèvres de Bastien.
« Y'a rien à voir. Y'a rien à voir, c'est juste des filles qui crient. C'est Francine qui était heureuse de retrouver Pauline. Et le deuxième cri, eh ben c'était Pauline qui était heureuse de retrouver Francine. Rien de plus. »
La déception générale accéléra le mouvement de dispersion. La cour se vida aussi vite qu'elle s'était remplie. Sur le principe des vases communicants, ben le préau se peupla à nouveau.
Ah ouais, non mais sérieux, faudrait qu'on organise une sortie avec un jeu de piste et qu'on les perd les filles. Un truc du genre qu'on n'y retrouve plus, sera obligé de devenir des ermites.
Ouais, t'as raison, faut qu'on y réfléchisse. Tiens, en attendant qu'on mette notre plan à exécution, bah...
Encore un cri. Plus intense, plus violence. Celui-ci distillait la peur. Certainement pas la joie de se retrouver. Bastien me dévisagea.
C'est encore les deux folles?
Je crois pas, non. Reste ici cette fois, c'est moi qui vais voir ce qui se passe. Mais si c'est encore les deux flux de traversière, je les envoie se perdre dans la forêt.
De nouveau, certains élèves sortirent du préau pour s'intéresser sans prise de risque au nouveau drame supposé de ce début de semaine. Seuls les blasés n'y prêtèrent aucune attention. Arrivé sur la scène du crime, près du réfectoire, je vis plusieurs gamins abasourdis, assez curieux pour garder leur regard rivé sur le gigantesque saule pleureur qui surplombait la cour, mais pas assez téméraire pour s'en approcher. Sauf une lycéenne, et pas n'importe laquelle, la petite amie de Lewis. Elle restait là, prostrée, transie parce qu'elle semblait observer ou avoir observé. le regard fixé vers les branchages.
Sandra, c'est toi qui as crié comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe?
Fred, il y a un truc dans l'arbre, tout noir. On l'a tous vu bouger. Je sais pas depuis combien de temps c'est là, mais je crois que ça nous regarde depuis qu'on est arrivé. Qu'on est arrivé ici.
Un truc? Mais de quoi tu parles là? C'est sûrement un mec qui profite du noir pour vous faire une blague, tout simplement.
Il y a rien dans cet arbre.
Ou alors un corbeau.
Un corbeau, mon œil. C'était un truc gigantesque qu'on a vu bouger, pas un corbeau. On était sur le banc juste en dessous. Je peux te garantir que ce qui bougeait au-dessus de nous n'avait pas la taille d'un corbeau.
Pris d'un soudain élan de bravoure, ses camarades se rapprochèrent et le porte-parole des courageux confirma les dires de Sandra.
Ouais, c'est vrai ce qu'elle raconte. On était tous assis sur le banc et ça s'est rapproché de nous. Mais on n'arrivait pas à le voir complètement, on aurait presque dit un sanglier.
Un sanglier? Par nouveau réflexe, je ne pus m'empêcher de penser à la présence d'un Legati. En fait, je crois que toute ma vie j'en verrai partout. Même si, cette fois-ci, la description du coupable laissait bien à désirer. Mais qui pouvait bien s'amuser à rester caché dans un arbre, un lundi matin? Ça n'avait aucun sens.
Bon, écoutez les jeunes, restez pas là. Il y a une explication à tout. Prenez Sandra avec vous, elle est morte de trouille. Et Lewis, il est où au fait? Il m'avait dit qu'il te rejoignait.
Oui, il était avec moi, mais il est reparti chercher son sac dans son casier. Il a dit qu'il avait un truc à me montrer, et je l'ai pas revu depuis.
Mon sang se mit à bouillir. Alors ça aurait été plus fort que lui. Il n'avait pas pu s'empêcher de faire le guignol pour montrer ses super pouvoirs à sa dulcinée. Une discussion sérieuse s'imposerait dès qu'il retrouverait forme humaine. Bon, écoutez les jeunes, je vais m'approcher du sol et jeter un œil. Vous tous, vous allez attendre vos profs près de vos salles de cours. Vous montez tous, ça marche? Je me charge d'expliquer le règlement du lycée à votre sanglier grimpeur.
Alors que les élèves engageaient leur marche vers des lieux plus sécurisés, ils se retournèrent pour assister à une scène insolite. Debout à côté du tronc, l'assistant d'éducation avait entamé une discussion avec un arbre. La distance qui me séparait d'eux ne leur permettait pas d'entendre avec précision la teneur de ma conversation, mais le réflexe smartphone restait très efficace. Une vidéo du pion qui parle à un arbre deviendrait vite virale et ferait le buzz sur les réseaux sociaux.
Lewis, je sais que c'est toi, alors écoute-moi bien là-haut dans ton arbre. T'as voulu jouer au rigolo pour montrer ton talent à ta copine? Eh ben c'est loupé. Non mais merde, tu pensais faire quoi là? Elle est morte de trouille et toi tu viens nous mettre... Non, tu viens de te mettre dans une belle merde. Et franchement, je sais même pas comment te sortir de là. Mais ni même si j'ai envie de le faire. Mais t'es vraiment inconscient, c'est pas possible ça.
Au loin, Sandra et ses amis furent rejoints par d'autres curieux, amusés par mon attitude. Dans cette obscurité tenace, l'alignement des LED des téléphones faisait penser à une procession de lucioles. Je devins le centre d'intérêt d'une situation gênante dont je peinais à entrevoir l'issue. Le feuillage frissonna. Des branches crépitèrent. Les dimensions de la silhouette qui se dégagea d'une cachette au plus haut sommet du sol étaient sans commune mesure avec ce à quoi les Legati avaient réussi à m'habituer. J'eus beaucoup de mal à imaginer Lewis derrière cette sombre apparition qui paraissait pouvoir adapter sa physionomie à celle de son environnement immédiat, ce qui lui conférait, selon l'angle de vue, un camouflage redoutable. En même temps, c'est vrai que Lewis, je ne l'avais jusqu'à maintenant jamais vu transformé. Puis, la silhouette longea le tronc dans un mouvement presque ralenti, avec une démarche de caméléon, jusqu'à se tenir immobile, tête en bas, à une distance que j'évaluais à 4 ou 5 mètres du sol.
Lewis, tu m'impressionnes même pas. Alors tu remontes vite fait, tu repars par où t'es venu, ok? Ensuite tu viens me voir en vie scolaire, sans oublier de te rhabiller entre temps. Je crois qu'on a une petite discussion à avoir tous les deux.
Malgré l'obscurité, je m'attendais à un moment ou un autre à croiser le regard blanc brillant de Lewis. Mais rien. La relative faible distance qui séparait mon visage du sien me permit de constater que ses yeux étaient aussi noirs que la nuit, dépourvus de tout reflet humide. Je ne comprenais pas. Puis, par réflexe, je portais mon attention sur les lycéens, dans l'espoir de voir le troupeau de cinéastes improvisés se dissoudre. Mais ils étaient tous là.
Oh, courageux, mais pas téméraires. Les zooms se chargeaient des plans rapprochés.
J'étais l'attraction du moment, le clown de service, le futur nouveau sujet de moquerie du lycée. Alors que mon Lewis Leg était toujours accroché sur le tronc la tête en bas, Sandra observait la situation avec une attention plus qu'ordinaire. Sa peur première paraissait avoir laissé place à la fascination. Puis, j'aperçus un jeune homme qui s'approcha de Sandra, sac à la main. C'était Lewis. Je sentis la panique m'envahir. Mais alors si Lewis était avec Sandra, qui ou quoi était dans l'arbre? En plein centre du visage de cette bête inconnue, je ne vis que noirceur. Je la fixai, sans pouvoir me concentrer ou me convaincre que ce fût un Legati. Du peu que j'en savais, cette créature avait plus de différences que de similitudes avec ceux que je connaissais. C'est alors que le noir de ses yeux versa du mat au brillant. Son visage s'avança de quelques dizaines de centimètres pendant que le corps restait immobile. Puis, la bête me fixa et me parla.
C'est donc toi.
Fin de la lecture pour aujourd'hui. Ah bah 19h finalement, je suis quand même à l'heure. Et voilà, les enfants, on a fini la lecture pour ce soir. Ah, je vous ai laissé en place une espèce, ben oui, mais c'est normal pour être sûr que vous reveniez demain. Marie-Madeleine, effectivement, j'ai vu rapidement que tu étais à un moment coupée par des appels. C'est pas grave, je te fais confiance. Je sais que ton petit déjeuner de demain matin sera bien occupé. Bon, comme d'habitude, vous le savez, la rediffusion, le replay, vous le retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook d'Exilium. Les autres rediffusions sont également toujours disponibles à tout moment. Et puis les podcasts MP3 seront également bientôt disponibles sur le site, sur la page web officielle du livre d'Exilium. Je vous mettrai tous ces liens bien en évidence à partir de mercredi dans la dernière session du Facebook Live. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde. Benjamin n'est pas venu, ben c'est dommage, il a loupé plein de choses. Allez, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui, je n'ai plus grand chose à vous dire, je vais pouvoir vous libérer. Alors je vous dis à demain 18h30, on termine le chapitre 13 et on termine le livre, si je mets de côté les quelques notes finales qui interviendront plutôt mercredi. Donc n'hésitez pas à vous connecter demain soir à Ramener du Monde 18h30 et d'ici là je vous souhaite une excellente soirée et puis bye bye et surtout portez-vous bien.